Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Quel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous sommes là pour vous faire vivre cette 5e édition du salon de l'immobilier bas carbone, le CIPCA, ici au Grand Palais, sous cet écrin absolument magnifique. C'est chouette, hein ?
Magnifique.
Magnifique. Un peu chaud, mais tellement beau.
Superbe et un peu de chaleur, ça fait pas de mal, même si on a eu beaucoup, beaucoup de chaleur cette année.
Eh oui, on l'a beaucoup subi, comme beaucoup d'autres. Mecca Brunel, bonjour.
Bonjour, merci de cette invitation.
Merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes présidente de la Fondation Palladio. On peut rapidement présenter les prérogatives de la Fondation à nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment.
La Fondation Palladio, abritée par la Fondation de France, oui, accueille plus d'une centaine d'acteurs de l'industrie de l'immobilier de la ville, première industrie française en pourcentage de PIB, en nombre d'emplois essentiellement locaux et en création de valeur ajoutée. Ça, ce sont les données de l'étude EY Palladio. Et pour travailler de façon collective et transversale sur... j'allais dire un slogan qu'on avait il y a quelques années sur la ville bas carbone pour tous. Aujourd'hui, je dirais sur la résilience des villes au service des habitants et de l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et dans tous les domaines. Et par ailleurs, nous avons aussi un institut qui forme à peu près une quarantaine de personnes par an. Dans ces domaines-là de l'industrie, de l'urbanisme et de la ville, avec toujours un parrain ou une marraine qui est un politique. Cette année, c'est le maire de Timișoara qui nous accompagne. Et enfin, nous octroyons des bourses à des doctorants méritants depuis l'origine pour accompagner la réflexion, la recherche, l'innovation et la R&D.
Alors, la Fondation Palladio qui décrit une crise systémique qui touche l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je voudrais rebondir sur un chiffre. En 2025, seulement 264 900 logements ont été mis en chantier en France. Le gouvernement vise désormais un rythme de 400 000 logements par an, source de l'INSEE. Hein. Passer de 265 000 à 400 000 logements construits en un an, est-ce que c'est un objectif déjà pour vous qui semble réaliste ?
Je ne l'évoquerai pas comme ça, est-ce que c'est réaliste ou pas. On a construit jusqu'à 500 000 logements par an pendant des années.
Oui, mais compte tenu du contexte, en fait.
Compte tenu du contexte, à un moment donné, vouloir, c'est pouvoir. Donc, il faudrait qu'on se donne les moyens d'y arriver. Le fait est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise structurelle profonde, multifactorielle, que nous avons des mètres carrés de bureaux vacants et en même temps, nous avons dans les endroits les plus centraux des bureaux de grande qualité qui attirent des grands noms. Nous avons des entrées de ville qui nécessitent d'être repositionnées. Nous avons un manque réel d'adaptation de notre parc de logements existants et nous avons de vrais besoins. Les Français ont besoin d'un toit. Et notre problème, c'est la capacité de prise de décision dans des délais raisonnables. Et donc, quand on se donne un objectif, il faut aussi se donner les moyens et la capacité de le faire.
Ouais. C'est pas le cas actuellement.
C'est-à-dire qu'on est dans un moment de sidération. Et comme je disais que c'est multifactoriel, c'est tout en même temps. Avant, on disait, tiens, c'est la finance, allez hop, on baisse des taux d'intérêt. Ou c'est on donne des prêts à taux zéro. Tiens, c'est l'environnement, on prend telle ou telle loi. Tiens, c'est la technologie, on prend telle ou telle décision. Là, c'est tout en même temps. Plus des guerres, plus des tas d'insécurité un peu partout. Donc, je ne crois pas au défaitisme. Vous êtes allé voir De Gaulle au cinéma ?
Il faut aller le voir, c'est juste...
Écoutez, franchement, le problème, c'est pas... Alors, on apprend des tas de choses sur l'histoire, mais c'est surtout comment peut-on aussi être dans cette résistance et dans cette... Pas simplement la résistance, mais la mobilisation pour la transformation aujourd'hui et d'apprendre que c'est le collectif qui marche.
Résistance, résilience. Il faut aller voir le deuxième épisode. Enfin, les deux films sont top, mais le deuxième est vraiment très bien. Pour sortir de cette crise, est-ce qu'il faut accepter finalement que certains terrains ou certains actifs immobiliers perdent de la valeur ?
Inexorablement, il y a des ajustements de valeur qui se font dans le temps, qu'on le veuille ou pas. Un actif immobilier, et en même temps, du fait de la raréfaction des logements, les prix des logements réellement ne baissent pas. Les loyers réellement ne baissent pas. parce que c'est un marché d'offres et de demandes et qu'il faudrait que, puisque la demande est importante, l'offre se renchérit ou du moins peut-être artificiellement. Le problème, ce n'est pas que les valeurs baissent ou pas. Le problème, c'est comment peut-on répondre aux besoins de la population française dans la période qui vient. Et c'est un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu humain important. Ces sujets, on a parlé de la canicule cet été, ce n'est pas simplement est-ce qu'on entretient bien ou pas bien les forêts. C'est un ensemble de choses qui fait que comment peut-on faire pour arriver à cette adaptation, à cette résilience, à cette capacité de vivre ensemble. Et encore une fois, ce ne sont pas des mots en l'air. Le problème, ce n'est pas de taxer telle ou telle chose. Mais à quoi ça sert, ces taxations? Où est-ce que ça va aller?
Où va l'argent?
Avoir une vision d'ensemble et de réflexion au service de... La bonne nouvelle, c'est que notre industrie de l'immobilier de la ville, qui est la première industrie française, je le répète, est en bas de l'échelle de Maslow, des besoins, et on a un taux de pénétration de 100%. Pour faire n'importe quoi, on a besoin d'un toit. Ici, aujourd'hui, pour la CIPCA, nous avons besoin d'un toit. On est content d'avoir un toit pour pouvoir échanger, travailler, vivre la dignité, mais aussi l'utilité et la capacité de contribuer à cette souveraineté nationale, à ce patriotisme économique que je revendique.
Oui. On sent l'optimisme derrière qui
non,
reste.
Non, le volontarisme.
Le volontarisme, okay.
Je ne suis ni optimiste, jamais été optimiste,
mais volontaire.
Ni pessimiste. Mais là où il y a de la volonté, je reviens à ces films et à ces périodes de guerre. De Gaulle a eu la volonté de ne pas lâcher. Et petit à petit, les gens se sont ralliés à lui et il a accepté que des gens d'origines diverses puissent composer, adhérer à un projet. Eh bien, nous pouvons le faire aujourd'hui dans l'intérêt de la France et des Français. Et il faut le faire.
Et si on reste concentré sur ce marché, c'est quoi? C'est un simple cycle et on va passer à autre chose? Est-ce qu'on est au bout d'un modèle? Est-ce qu'il faut se réinventer?
Non, je ne crois pas que ce soit un simple cycle. Je pense que la transformation est beaucoup plus profonde que ça. C'est pour ça que le modèle siloté et je vais trouver une solution... vite fait un problème va marcher. Vous savez, ça me fait penser au sketch de Fernand Reynaud avec le tailleur et la veste. La veste était de Guingois. Le client disait franchement, il y a une épaule qui tombe, une manche qui est plus courte, l'autre est plus longue, etc. Et le tailleur lui disait, vous vous tenez mal, tenez-vous de travers, vous verrez, ça ira mieux. Ben non, il faut faire la bonne veste pour la bonne personne et il faudra avoir l'humilité de reconnaître qu'on doit... il ne faut pas lâcher nos objectifs, nos intentions, mais il faut arrêter de vouloir donner la marche à suivre à toutes les étapes et faire confiance au territoire, aux acteurs, au travail ensemble.
Au talent.
Au talent, à travailler ensemble. Et il faut, c'est ce que nous avons proposé le 18 juin à notre sommet à Versailles, travailler autour de trois verbes. Industrialiser. Passer à l'échelle, nous ne pouvons pas faire du réemploi immeuble par immeuble. Ça ne permet pas de créer un marché, une dynamique, etc. Il faut accélérer les prises de décision. On ne peut pas passer 20 ans à attendre une décision administrative définitive pour faire quelque chose. Le monde change. Il faut traiter les sujets, purger des recours dans un délai raisonnable et après faire.
Ouais.
Parce que un des problèmes pour ne pas faire, c'est les délais.
Pour renverser la table, quoi.
Enfin, contribuer. L'industrie de l'immobilier de la ville, vous savez combien on paye cette industrie paye d'impôts et des taxes tous les ans au budget de l'État. Et c'est très bien, c'est 100 milliards. Et face à cela, il y a des aides, mais qui sont des aides aux particuliers essentiellement, qui sont à peu près un peu moins de la moitié, et pour pouvoir faire. Mais ce n'est pas que ça qu'il faut faire. Si la base taxable est plus importante, si on construit plus, il y a plus d'entrées d'argent, que ce soit TVA, taxes diverses variées, pour l'État. Et il ne faut pas dire, je vais faire que du logement, que du social, que du très social, que du géré, etc. On a besoin de tout ça. Il faut avoir cette unité dans la diversité. Encore une fois, pardon, je suis en train de faire ce que je n'aime pas, les il faut. Je pense qu'on est... dans cette maturité-là, dans cette industrie, pour se dire les choses et pour avoir la capacité de faire, y compris au niveau territorial, en alliance avec les autorités, avec les acteurs du terrain, avec ceux qui savent faire. Et une fois qu'on a consulté et qu'on a pris des décisions, il faut y aller, quitte à en tirer des leçons derrière. Mais il faut passer à l'échelle,
Se transformer. Et pour se transformer, pour passer à l'échelle, vous imaginez un plan de relance de la filière sans argent public supplémentaire.
Mais encore une fois...
De toute façon, il n'y en a plus.
Écoutez, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de surplus qu'on pourrait utiliser. Mais je vous prends un exemple. Ursula von der Leyen en parlait cette semaine. Aujourd'hui, il y a plus de 600 milliards d'épargne des Européens qui est investi dans la dette américaine. Dont nous, d'ailleurs. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est une réorientation de l'épargne.
Pour réfléchir, quoi.
Il faut réfléchir. Il faut, encore une fois, j'entends parler de beaucoup de taxes. Pourquoi pas? Mais pourquoi faire? Dans quel but? À quoi ça va servir? Et quelle orientation? Et il faut parler investissement. Et pardonnez-moi, autre chose. Et encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne remets pas en cause les intentions, mais on s'est trompé un peu dans la réalisation. Bon, ça arrive, hein, errare humanum est. Mais il faut en tirer les leçons pour faire autre chose. Quand il y a eu le Green Deal européen, il y a quelques années, les Allemands l'ont fléché vers l'industrie. Et l'industrie qui était massive... a servi, ils ont eu leurs propres enjeux, je ne suis pas en train de dire que ce sont les meilleurs. Les autres pays européens, les Italiens, vers l'industrie, et donc massivement, ils ont changé les habitudes et les façons de faire de leurs compatriotes, de leurs habitants. Nous, c'est ma prime rénov. Donc, on fait des maîtres d'ouvrage non professionnels, c'est-à-dire le particulier que je suis, qui n'y connaît rien, et des artisans locaux qui n'ont pas tous les moyens pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut massifier, tirer la locomotive. Et je pense qu'on commence à comprendre qu'il faut industrialiser, qu'il faut passer à l'échelle. Et puis, l'Europe est un open bar. C'est du libéralisme à tous les étages, partout. Pardonnez-moi, le premier pays libéral au monde, ce sont les États-Unis. Et ils sont extrêmement protectionnistes. Le protectionnisme n'est pas l'ennemi du libéralisme. Donc apprenons aussi à protéger nos marchés et la façon de faire. Ça n'empêche pas de respecter nos voisins et nos partenaires dans tout ce qu'ils ont à faire.
Vous pensez qu'on est capable d'atteindre les objectifs nationaux qui sont fixés à échelle 2030, voire plus loin, même 2050?
Je pense que si plus on retarde pour s'y mettre, moins on a des chances d'y arriver. Le ministre Jeanbrun parlait de l'équipe de France du logement. Je pense qu'il faut en faire partie et il faut être volontaire là-dedans et apporter les solutions. Espérons que ce dialogue permettra d'avancer. On ne peut pas faire autrement. Et c'est un vrai enjeu. Si on n'a pas de toit, on parle d'emploi. Si on n'a pas de toit, vous vous rendez compte qu'il y a des soignants dans les hôpitaux, voire même des médecins ou même des acteurs de terrain qui dorment dans leur voiture. On peut se contenter de ça. En France, c'est considéré qu'on est très social. On doit se poser la question de l'efficacité de l'usage de l'argent public. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Les problèmes existent. Mais ce n'est pas en rajoutant des couches complémentaires qu'on les réglerait. Mais on est tous volontaires. Et vous savez, moi qui suis française d'adoption, étant d'origine iranienne, oserais-je dire que je suis la nouvelle France à mon âge? Je pense que nous sommes tous mobilisés pour y arriver parce que c'est l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vous assure, on n'est pas uniquement fait pour la farniente. Et c'est très bien de pouvoir le faire. Les gens peuvent comprendre qu'à un moment donné, il faut faire passer par un chemin. Mais il faut l'expliquer simple. On est capable de comprendre, je vous assure, même les retraités.
Quel modèle immobilier doit finalement émerger, d'après vous, d'ici aux prochaines échéances électorales? On pense évidemment à la présidentielle au printemps prochain.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, quel modèle immobilier. Je ne pense pas qu'il y ait un seul modèle.
Non, mais est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur quelque chose?
Je pense qu'il faut être d'accord d'abord sur les objectifs et laisser la place à l'innovation, à l'industrialisation et à l'accélération de prise de décision pour y arriver. Regardez, pour les Jeux Olympiques, on a créé une loi d'exception pour pouvoir aller vite, pour Notre-Dame aussi. Mais on doit... pourquoi faire des lois d'exception? Pourquoi on ne peut pas considérer qu'à chaque fois... qu'on a des zones complètes qu'on veut transformer, la régénération urbaine doit passer par une accélération des prises de décision et de prise de toutes les décisions, puisque les autorisations administratives en France sont indépendantes les unes des autres. Vous pouvez avoir une ZAC qui tombe et un permis valable et un CDAC qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que tout ceci fonctionne. Et vous savez quoi ? Je pense que si on flèche mieux le peu d'argent dont on dispose, on peut petit à petit créer de la richesse, de l'investissement et moins de dépenses de fonctionnement. Ça, toutes les familles le comprennent. Chaque ménage français, je vous assure, la ménagère que je suis depuis de 50 ans, même plus de 60 ans, est capable de comprendre ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment revenons au bon sens, faisons confiance au territoire, faisons confiance et ayons la possibilité d'avoir un décisionnaire qu'on consulte, mais à un moment donné, quelqu'un dit on y va. Dans les entreprises, c'est comme ça que ça se passe. Tout est en consultation, mais à un moment donné, on décide. Ouais. Eh bien, la décision, elle est bonne, elle est mauvaise. Au moins, elle existe. Ne pas décider, c'est ça qui reporte. Je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui.
Expliquer les choses et décider.
En français, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Méga Brunel, d'avoir gentiment répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Bonne continuation. Merci également à vous aussi. De votre fidélité. On va se retrouver dans quelques instants avec un prochain invité. Bien, ne bougez pas. Cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité, en replay, sur nos plateformes. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.